Phil PM. Politique.
Il y a deux possibilités, OK? Il n'y a pas de barrage, puis il n'y a pas d'emploi ni au Québec ni en Ontario. Ou il y a des nouveaux barrages, on sert l'Ontario, puis il y a des emplois au Québec, puis des emplois en Ontario. Qu'est-ce que vous préférez?
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Alors, c'était François Legault ce matin. Paul Journet, éditorialiste à La Presse, bonjour.
Salut.
Carl Bélanger, consultant en communication stratège, bonjour.
Allô.
Bon, là, le signe que me faisait Paul, là, c'est le signe « rock on ».
Le signe du diable, Bernard.
C'est le signe du « devil ».
Oui.
Ben, parce que c'est ça, c'est comme, c'est les deux, c'est l'index puis le petit doigt, là.
C'est
hein?
Ça, c'est l'antithèse de la
paix.
Il y a
toujours eu des penchants sataniques, Paul.
C'est l'antithèse du peace.
Oui, c'est ça, moi, c'est deux différents doigts que tu utilises pour la paix.
Moi, je suis peace, moi.
Puis là, si t'enlèves un de tes doigts, je vais mal le prendre.
Non, je fais pas ça, tu sais bien.
Merci.
Bon, OK, petit buffet Legault.
Oui.
Hein, de plusieurs dossiers à caractère énergétique.
Oui, Conseil des ministres ce midi à Québec et François Legault a parlé avec les médias, il a commenté différents dossiers. Le premier, c'est celui d'une possible entente avec l'Ontario pour exporter, dis-je, de l'électricité. Je pense que tu as parlé tantôt au syndicaliste Bernard Gauthier.
Oui.
Je comprends qu'il y a des gens qui s'inquiètent, des travailleurs sur la Côte-Nord qui disent « You, oubliez-nous pas, si vous lancez dans des gros contrats, on veut avoir notre part des emplois. » Mais il faut quand même rappeler qu'on n'est même pas en train de négocier une entente. On n'est même pas rendu là. C'est exploratoire, la démarche entre François Legault et le premier ministre de l'Ontario, Ford. Le Québec exporte déjà de l'électricité. Il pense qu'il peut doubler, juste peut-être même tripler ses exportations avec les lignes de transport actuelles.
Oui, oui, oui.
Puis là, ce qu'on veut, c'est convaincre l'Ontario, qui est sur la barre de fermer des centrales nucléaires, ou à tout le moins les mettre en veilleuse pour les rénover. Mais la conséquence, c'est la même, c'est que l'Ontario ne pourra pas miser sur l'énergie nucléaire. Donc, on veut les convaincre d'acheter de l'électricité. Fait qu'on, lentement, on commence à négocier avec eux. Fait que tu peux pas arriver tout de suite avec des conditions noires sur blanc en disant il va y avoir X emplois créés ou gardés au Québec. Écoute, on parle de milliards et de milliards de dollars faits prévus pour les prochaines décennies, là. Commençons par les commencements.
C'est pour ça que moi, je trouvais ça un peu prématuré comme déclaration quand même. Parce que si on n'est pas en train de négocier, si on n'est pas amorcé...
Celle de
François Legault. Puis moi, ce que je considère, c'est que probablement, lors de la rencontre avec Doug Ford, François Legault s'est rendu compte, notamment sur le dossier de la francophonie, que quand tu parles à Doug Ford, c'est comme parler à un mur. Et si Doug Ford a dit, tu veux parler d'électricité, ben moi, ça va me prendre, je sais pas moi, 2000, 5000 emplois. François Legault s'est dit, mais je vais commencer à préparer le terrain tout de suite parce que ça sera pas vendu facilement. Alors, je pense que c'est probablement pour ça. Sinon, je ne vois pas pourquoi François Legault s'avancerait à moins que Doug Ford n'ait pas déjà mis ça de l'avant.
Mais il faut rappeler que ça précède Doug Ford. Souvenez-vous, l'hiver dernier, devant le CORIM, donc un groupe de réflexion, entre autres lié à l'Université de Montréal, François Legault avait présenté son projet d'entente pour exporter l'électricité dans lequel il disait ben peut-être qu'on pourrait créer une genre de société d'État conjointe entre le Québec et l'Ontario, axée spécifiquement sur les nouveaux projets québécois qu'on exporterait en Ontario. Donc, c'est de ça que découle son idée que s'il y a co-entreprise, il y a des emplois des deux côtés de la frontière.
Mais il n'était jamais allé aussi loin que ça, là.
Non, il a continué, mais il avait quand même déjà ouvert la porte, en quelque sorte,
à
ça.
Oui, tout à fait. Parle-nous maintenant de... Paul, de ce projet gazier-là. Ce serait un gazoduc qui partirait, qui passerait par le nord du Québec, qui aboutirait finalement au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Écoute, c'est immense, c'est des milliards et des milliards de dollars. Pourtant, on n'en avait absolument pas entendu parler. C'est rare qu'il n'y ait pas de fuite pour un projet d'une telle ampleur. Donc, et ça a été dévoilé la semaine dernière, mais on connaît encore très peu de détails.
Qui est derrière ça?
Écoute, c'est le nom de l'entreprise m'échappe.
Mais c'est une entreprise canadienne?
Oui, mais il y a beaucoup, puis évidemment, ils sont allés chercher une expertise québécoise pour les conseiller. Il y a un monsieur qui était derrière le projet de TransCanada, et Oléoduc Énergie Est aussi, qui est avec eux, puis qui est impliqué dans d'autres projets d'Oléoduc. Puis, avant même d'avoir tous les détails, déjà, il y a la question des juridictions qui se pose. Est-ce que c'est un projet de compétence provinciale ou fédérale? La réponse, c'est que c'est un peu des deux, parce qu'on parle d'environnement.
Qu'on parle de deux provinces aussi.
Oui. Hein? Évidemment, ça passe selon le trajet préliminaire. Ça viendrait de l'Ontario, puis ça passerait grosso modo en Abitibi, proche de la TUC, puis ensuite, ça irait jusqu'à Saguenay. Et là, il y aurait des livraisons du gaz liquéfié par navire pour aller jusqu'en Asie.
Donc, c'est du gaz d'exportation.
Essentiellement, pour aller vers l'Asie. Puis là, il y a du monde qui demandait à la ministre de l'Environnement, est-ce que le Québec va se garder un droit de veto? Est-ce qu'on va refuser le projet si on ne l'aime pas? Elle a dit oui. La question a été posée. Elle a pas dit qu'elle allait le bloquer. Elle a dit qu'elle pouvait le bloquer.
D'accord.
La question a été posée aussi à François Legault aujourd'hui. Il a été très prudent dans un premier temps et lorsque pressé de nouvelles questions, il a dit que oui, on pourrait le bloquer. Mais écoute, on est tellement loin de commencer à dire si on bloque ou non le projet. Deux éléments qui le distinguent d'Énergie Est. Premier, c'est du gaz liquéfié et non du pétrole. Ce qui implique des risques vraiment moindres en cas de déversement. Et le deuxième, c'est que ce ne serait pas seulement des emplois créés pour la construction, des emplois temporaires. Il y aurait des infrastructures permanentes à Saguenay, donc une espèce d'usine. Économiquement, pour ces raisons-là, ça pourrait être plus avantageux pour le Québec Énergie. Ça ne veut pas dire que c'est un bon projet. Encore là, il manque tellement d'informations avant de se prononcer.
On s'entend. Et rapidement, Legault qui s'est prononcé aussi ce matin sur les trop-perçus d'Hydro-Québec. Moi, je l'ai entendu. Il a dit « J'ai jamais promis de rembourser les trop-perçus. »
Non, c'est ça. Bernard, la position de la CAQ, quand ils étaient dans l'opposition, c'était « Rembourser aux Québécois
».
Puis là, ce qu'il dit, c'est « On a dit « Vous ». Rembourser aux Québécois, mais nous, on n'a pas dit qu'on allait rembourser. On a dit que c'est à vous de le faire, pas à nous.
C'est tellement ça, là. Ça met le monde en maudit.
Ben oui.
Ils ont l'impression de se faire jouer.
Ben, ils se sont fait jouer. Ils se sont fait jouer. Écoute, la CAQ faisait tellement de campagne là-dessus. Pendant des mois, ils parlaient de ça. Puis là, on arrive au pouvoir, puis finalement, on le fera pas parce qu'eux autres, c'était à eux autres de le faire, nous autres, il est trop tard.
Ouais.
Vous aviez juste à être bon. Quant à nous, on a un autre plan de match.
Ouais, c'est ça. Mais en même temps, ils nous annoncent une baisse de fardeau fiscal d'ici Noël.
Alors, c'est ce qu'ils répondent. Hein? L'argent qu'on ne redonne pas dans les poches des Québécois en remboursant les trop perçus, on va en redonner une partie avec différentes mesures qui sont des engagements électoraux, mais quand même, le discours dans l'opposition, c'est pas toujours le même que le discours quand t'es au pouvoir. Hein. Des fois, c'est bien compliqué que tu réalises là, quand t'es au pouvoir.
Ça arrive. Carl, parlant d'argent et d'économie, c'est la mise à jour économique de Bill Morneau, le ministre fédéral des Finances aujourd'hui. Vas-y.
À 16h, on va savoir ce qui nous attend. Enfin, il y aura peut-être des mesures qu'on n'a pas encore vues dans les précédents budgets. Mais je pense que d'abord et avant tout, là, ça va être un document politique. Les attentes de l'opposition sont claires. On va écouter Alain Reyes là-dessus. Et puis, le message de Justin Trudeau sur ce qu'on peut attendre cet après-midi.
Bien, nous, de notre côté, on réitère depuis déjà, je dirais presque un an, la volonté de voir à quand le retour à l'équilibre budgétaire. On espère qu'il y aura des informations qui seront données aujourd'hui, qu'il y aura des allègements pour les entreprises.
On va continuer de démontrer les résultats de notre plan pour faire croître l'économie, pour aider les petites et moyennes entreprises et appuyer la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour s'y joindre.
Oui, j'ai pas l'impression, hein, Carl, que la mise à jour va donner un échéancier pour atteindre l'équilibre. Trudeau est sur la croissance économique, il n'est pas du tout sur l'équilibre budgétaire.
Non, il n'est pas du tout là-dessus. Mais en fait, ça fait longtemps qu'ils ne le sont plus, depuis qu'ils ont pris le pouvoir, que leur échéancier qu'ils avaient promis pendant la campagne a pris le bord. Là, on est dans les déficits, on va continuer dans les déficits. Quand est-ce que ça va finir, on ne le sait pas. Le problème pour les conservateurs, c'est que en 2015, pendant la campagne, à la fois Stephen Harper et Thomas Mulcair du NPD ont tapé sur ce clou en disant « Le plan libéral marche pas, on va être dans les déficits systémiques pendant longtemps. » Mais le monde s'en foutait.
Mais ils s'en foutent encore, c'est ça la question?
Je pense que oui. Moi, je pense que oui. Je pense que les gens, ça leur dérange pas. Regarde les sondages. Les conservateurs martèlent ce clou-là depuis des années, qu'il n'y a pas d'échéancier pour rétablir l'équilibre budgétaire. Il y a une motion conservatrice qui s'en vient là-dessus. Les gens, ça les dérange pas. C'est de l'argent virtuel. C'est pas quelque chose qui les émeut beaucoup présentement. Surtout que quand on considère la taille du déficit par rapport à l'ensemble de l'économie canadienne, par rapport au PIB, par rapport au poids de la dette, c'est quand même minuscule quand tu regardes ça. Mais Moi, je trouve que ça demeure problématique qu'on continue d'emprunter puis qu'on continue de mettre des déficits sans avoir de plan pour rétablir l'équilibre.
Moi, je suis d'accord. À un moment donné, là, écoute, on est en pleine croissance économique. C'est dans ce temps-là qu'il faut balancer les livres. C'est pas quand
ça va. Mettre de l'argent de côté pour pouvoir intervenir.
Ben oui.
Mais pour ajouter à ce que Carl dit, les finances publiques qui inquiètent vraiment, ce sont celles des provinces. Mais c'est une raison de plus d'un point de vue du fédéralisme pour que le fédéral ne dépense pas tout cet argent-là et qu'au besoin, il puisse aider les provinces qui sont prises avec les conséquences du vieillissement de la population.
Très bien.
Entre autres.
Le nom de l'entreprise, en passant, c'est Gazoduc Inc. Je vous demandais, l'entreprise.
On aurait pu le deviner.
Oui, Gazoduc Inc. Bon. Bonne journée. De quoi
parmi les autres choses qu'on va voir dans la mise à jour économique, là, les conservateurs parlent de mesures fiscales pour les entreprises pour qu'ils demeurent compétitifs avec les Américains dans le cadre de l'entente de libre-échange qui vient d'être signée.
Oui.
Les libéraux sont pas très chauds à l'idée de baisser à nouveau les impôts des entreprises, mais peut-être qu'on peut s'attendre à des mesures plus ciblées, par exemple sur les investissements, c'est-à-dire est-ce que les gens pourraient amortir ces investissements-là sur une plus longue période. C'est pas impossible, les Américains l'ont fait, donc le Canada pourrait calquer ça, mais on s'attend pas vraiment à des baisses d'impôts pour les entreprises. Je pense pas que ça va arriver.
La question de savoir, une des questions, c'est l'aide aux médias. Est-ce qu'il y en aura? Faut s'arrêter là-dessus, Carl. On va y revenir. On va en discuter demain, de toute façon, de cet énoncé économique à 16h. On s'arrête au retour. Scandale en Colombie-Britannique et Paul Journet encore. Quelques petits sujets dont il veut nous parler, entre autres la réforme du droit de la famille. Sujet excitant s'il en est un. OK, de retour avec Carl et Paul. C'est quoi cette histoire-là de scandale en Colombie-Britannique. Carl, ça a besoin d'être gros pour que tu veuilles nous en parler.
C'était tout un coup de tonnerre à la législature de la Colombie-Britannique hier. Écoute, je vais vous faire écouter Mike Farnsworth, qui est le leader en chambre du gouvernement. Là. Il a déposé une motion qui a été adoptée de manière unanime par les députés. Écoutons ce que ça donnait.
I move that Mr. Craig James, clerk of the Legislative Assembly, and Mr. Gary Lenz, sergeant at arms, are placed on administrative leave with pay and benefits effective immediately.
Et ça, c'est le greffier de l'Assemblée et le sergent d'armes qui ont
été suspendus.
Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Mais on ne le sait pas. C'est ça l'affaire. Allô? On ne le sait pas. Là, juste avant que la motion soit adoptée, le président a convoqué ces deux hommes-là dans son bureau pour pas qu'ils soient témoins de tout ça. Et là, il leur a annoncé que c'est ça qui allait arriver. La police de Victoria était sur place. Ils les ont escortés en dehors de la législature. Ils n'ont plus le droit de mettre le pied dans l'enceinte parlementaire. On ne dit pas pourquoi. On sait que c'est une enquête maintenant de type criminel, c'est la GRC qui a repris le dossier. Le gouvernement de la Colombie-Britannique a mis en place deux procureurs spéciaux, mais de quoi on les accuse? Qu'est-ce qu'ils auraient fait? Personne ne dit rien.
OK. Très bien. À suivre, parle-nous de Yves-François Blanchet, qui songe sérieusement à se lancer dans la course à la chefferie pour le Bloc québécois et qui espère, à juste titre, s'il décide d'y aller, un couronnement.
Ouais, ben c'est probablement une des choses auxquelles il va penser, consulter les gens là-dessus. Mais il prend du recul pour y penser, ça c'est assez intéressant parce que c'est pas toujours évident là de prendre une telle décision. Écoute, Bernard, tu peux en témoigner, entrer, sortir de la politique, ça a des conséquences.
Ouais.
Lui a décidé de prendre le temps d'y penser. C'est une grosse décision. C'est une grosse décision. Mais la question qui se pose pour tout le monde, c'est pourquoi veut-il devenir chef du Bloc québécois?
Parce qu'il y croit. C'est la seule réponse possible. Qu'est-ce que tu veux? Ils scorent pas d'un sondage. Ils ont un peu d'argent encore pour le payer jusqu'à l'élection, mais bon, ils sont en campagne de financement. Je veux dire,
ça va pas.
Tu sais, je veux dire, il y a juste une raison pour faire le saut. C'est parce que le gars, il aime le Québec puis il veut faire sa part pour le Québec. Il y a pas d'autre raison. Qu'est-ce que tu veux? Il risque de se péter à marboulette avec les chiffres qu'ils ont présentement, là. Le son risque est très, très élevé.
Il y a pas besoin d'argent ni de visibilité. Il y a déjà boulot. Il y a de l'argent. Il y a des tribunes médiatiques. Il peut intervenir sur la politique. C'est vraiment idéaliste qui y croit.
Ouais, s'il va, c'est tout à son honneur parce que les conditions sont pas faciles. Mm. Écoute, le site Québec 125, là, les projections actuelles du Bloc, on parle de un siège lors des prochaines élections. Puis parmi les sièges qui sont pas occupés présentement par un député du Bloc, il y en a aucun de facile pour le prochain chef du Bloc. Donc, il y a pas de siège évident. Et l'arrivée de Blanchet, une remontée du Bloc sous son règne, peut-être, éventuelle, mais ça nuirait surtout au NPD et aux conservateurs. Mais pour les libéraux, là, je pense pas que ça leur fait peur. En fait, ça ferait même plaisir d'avoir un autre adversaire de taille dans l'opposition pour diviser le vote.
Ça divise le vote. Exactement. Voyons donc la suite des choses. Il s'est donné quelques jours pour nous donner une réponse définitive. Parlons, Paul Journet, en terminant du droit de la famille. Je faisais un peu une blague en partant, parce que a priori, c'est un peu aride, mais c'est très important, le droit de la famille. Ça a un impact très concret dans nos vies, là.
Oui, je vais essayer de te rendre ça concret. Par exemple, tu as un père biologique qui veut faire rayer du certificat de naissance de son enfant un des parents adoptifs. Ou tu as un couple de Québécois qui veut aller dans un centre de procréation en Inde puis qui se demande « Est-ce que je peux signer un contrat? Est-ce qu'il serait valide? » Ça, c'est des questions qui ont été soumises aux tribunaux depuis 2 ans. Dans chaque cas, les juges ont dit « On aimerait ça trancher d'abord et avant tout en fonction de l'intérêt des enfants, mais on ne peut pas parce que la loi ne nous permet pas. » Pourquoi? Parce qu'elle est figée encore à sa vieille version de 1980 et elle n'est absolument pas mise à jour. À l'époque, les gens se mariaient devant Dieu, c'est des couples hétérosexuels, et ensuite ils avaient des enfants. Alors que maintenant, les enfants naissent presque la moitié du temps hors mariage et la moitié des couples se séparent. On est complètement là, dans un autre paradigme. Et on se souvient de la cause Éric Lola, portée en Cour suprême.
Rappelle-nous.
On se demandait si les conjoints de fait devaient se partager le patrimoine familial et aussi une pension alimentaire pour les enfants, mais aussi pour le conjoint.
Pour madame, on parlait d'un milliardaire.
Oui, c'est ça. Mais la question, oublions le cas des milliardaires, là, puis pensons aux couples ordinaires de la classe moyenne pour qui cette question se pose. Donc, les juges s'étaient retenus de légiférer à la place du Québec. Ils avaient renvoyé ça avec raison dans la Cour du Québec en disant « C'est à vous d'adopter vos lois si vous le jugez nécessaire. » Nous, on pense que c'est nécessaire. Le gouvernement péquiste décide de demander un rapport. Ils avaient raison parce que c'était énormément complexe. Le rapport est déposé en décembre 2015. Le gouvernement Couillard n'a rien fait parce que c'était trop sensible. Les notaires ont lancé une vaste consultation publique parce qu'ils étaient désespérés par l'inaction du gouvernement Couillard. C'est là où on en est rendu. On a un nouveau gouvernement et à nouveau, il y a une coalition d'anciens ministres péquistes et libéraux qui font pression sur le gouvernement caquiste, qui disent « Faites quelque chose. Sonia Lebel promet d'agir à l'intérieur du mandat. On ne demande qu'à la croire. »
Carl?
Il y a eu un jugement il y a quelques semaines là où le juge disait dans son jugement que tout le monde était d'accord, sauf le législateur. Et je pense que c'est peut-être un peu aussi en réponse à ça, parce que du côté judiciaire, on est rendu là, mais du côté du gouvernement du Québec ou du Parlement québécois, on a du retard en droit de la famille.
Oui. Mais j'ai hâte de voir. Sonia Lebel, elle a quand même quelques dossiers à régler, notamment le mode de scrutin.
Le mode de scrutin,
ça relève d'elle, ça.
Les affaires intergouvernementales, il y a beaucoup de choses dans sa cour.
Du pain sur la planche.
Ouais, elle fait bien dire pendant le mandat parce que ça lui donne 4 ans. Mais ça, c'est vrai qu'il serait temps que ça se règle. C'est le genre de dossier qu'on peut régler dans un gouvernement majoritaire, mais il faut s'y prendre quand même assez tôt.
Les rapports sont faits, on a l'expertise.
Voilà, exactement. Paul Journet, éditorialiste à la presse. Merci, Paul.
Merci.
Carl Bélanger, consultant stratège. Merci.
À demain.
On s'arrête. Au retour, on va vous parler notamment des véhicules électriques. C'est bien beau en acheter, mais est-ce qu'on aura quelqu'un pour les réparer?